Chers amis, bonjour. En ce jour de la conversion même, de la fête de la conversion même de Saint Paul, donc ce 25 janvier, nous abordons une première leçon de ce parcours global sur la vie, les écrits de Saint Paul. Pour débuter, en ce jour de fête, je vous lis simplement l'hymne qui était proposé dans l'office de prière de ce matin, l'office dit des lectures. Quel est ce voyageur que le Seigneur guette sur le chemin et qu'il terrasse par sa lumière? Quel est ce violent qu'entre tous le Seigneur a choisi pour faire connaître à jamais la force de sa parole? Victoire du Christ en son apôtre. Contre Jésus, il allait à Damas. Pour Jésus, il sillonnera le monde. Dans la justice de la loi, il mettait son orgueil. La grâce de l'Esprit fera toute sa fierté. Connaître Jésus et Jésus crucifié, rien d'autre désormais ne compte pour lui. Il partagera les épreuves de son Seigneur pour communier aussi à la gloire de sa résurrection. Et bien, cette fête de la conversion de Saint Paul, que le Seigneur nous accorde d'ouvrir nos cœurs, nos yeux, nos oreilles à son message que l'Esprit même lui a inspiré. Je commence, puisque c'est la fête d'un saint, par évoquer, et je suis ici, les feuilles de route que vous avez, les pages 1 et 2, sont justement le schéma de notre parcours dans ces premières leçons. Il n'est pas dit que nous aurons fini toute l'introduction aujourd'hui. Saint Paul est un saint par grâce de Dieu. Je vais ici m'inspirer de ce petit livre que j'ai écrit et dont voici une représentation de la couverture, une belle peinture de Rembrandt. Saint Paul en prison. Je la commenterai dans quelques instants. Je m'inspire de ce petit livre, disais-je, pour commencer par évoquer la sainteté de Paul. C'est le chapitre 3 de ce livre, écrit à l'occasion du 2000e anniversaire de la naissance de Saint Paul, 2008, puisqu'on estime généralement qu'il est né entre l'an 5 et l'an 10 de notre ère, sans doute une douzaine d'années après la naissance du Christ. Dans ce petit livre, un premier chapitre est consacré à la biographie de Paul, quelques jalons dans sa vie. Ce cadre posé, avec notamment le cadre de ses voyages, on peut passer à un second chapitre qui brosse un tour d'horizon de ses écrits. Et puis dans un troisième chapitre, et c'est de cela que je vais m'inspirer un instant, un portrait spirituel de l'apôtre, comme saint, comme prophète, comme martyr, ou pour utiliser des termes que lui-même utilise pour se qualifier, héros au sens de proclamateur, apôtre, docteur. Diverses facettes de Saint Paul, mais qui toutes concourent, dans la manière dont il les a exercées, à sa sainteté. Je commence par évoquer l'appel à la sainteté. C'est que tôt, le Seigneur a rejoint le cœur de Paul, juif, né dans la foi de ses parents, de ses ancêtres, la foi des pères. Il avait une aspiration à répondre à l'appel du Dieu saint. Et c'est important de considérer Paul sous ce jour. On retient volontiers son image comme évangélisateur, pasteur de communauté là où il passait, théologien, écrivain du Nouveau Testament. Mais finalement, la source d'un tel rayonnement de Paul, eh bien, d'une telle fécondité pastorale, spirituelle, théologique, la source, c'est l'expérience radicale qu'il a faite de l'appel à la sainteté. Il s'écrit dans la lettre aux Éphésiens, au premier chapitre, dans une belle hymne, Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a appelés pour que nous soyons saints. Et dans les adresses, les débuts de ses lettres, il évoquera volontiers cet appel à la sainteté pour tous les fidèles et pour les églises qu'il fonde, qu'il évangélise, qu'il encourage. Et donc le tempérament de Paul, Dieu va le purifier, le sanctifier. Et c'est d'ailleurs parce que Paul est reconnu comme saint que chaque jour, dans la liturgie, les chrétiens peuvent prier aussi des hymnes tirés de ses écrits. J'ai évoqué à l'instant l'hymne « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur ». C'est une de celles-là. Il y a divers passages hymniques de Paul qui sont des passages particulièrement priants qui inspirent la prière chrétienne et qui disent non seulement une saine théologie, mais comme la passion, l'ardeur d'une âme saisie par Dieu. Et Paul ne se contente pas en ce sens d'argumenter, d'exhorter, mais il laisse souvent déborder le mouvement de sa prière, louange, action de grâce, contemplation, etc. Donc, avec Paul, Dieu a donné avant tout un saint avec lequel le Christ nous conduit à Dieu. Le Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle, il a voulu ainsi la rendre sainte. Alors Paul s'écrit à un moment donné, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs? Non, même si lui, par grâce, réunit toutes ses facettes, mais tous sont appelés à la sainteté, quel que soit leur service dans l'Église. Dans la première aux Corinthiens, il s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et qui sont appelés à être saints. Tout ce que Paul va déployer comme théologie, comme argument, comme exhortation, s'enracine dans son désir ainsi de Dieu qui le sanctifie, et il peut l'exprimer avec justesse parce que le premier, il en vit aussi en profondeur. Avec le Christ, il prend sa part de joie, sa part de souffrance, etc. Paul n'est pas sans défaut. C'est bien, c'est un tempérament de feu, une vigoureuse personnalité. Au départ, l'humilité n'était sans doute pas sa première qualité, mais peu à peu, le Seigneur a travaillé son cœur, son âme, et s'il énonce des vertus chrétiennes, il énonce aussi en Galates la série des dons de l'Esprit. Et c'est précisément le travail de l'Esprit dans son cœur qui a donné chez lui tant de fruits de sainteté. Une sainteté qu'il a mis du temps à entrevoir, à acquérir, pour autant qu'on puisse utiliser ce terme, à recevoir de Dieu, ça serait mieux. Il a mis du temps par une docilité sans cesse ajustée à l'Esprit. C'est un des traits qui peut frapper chez saint Paul. C'est, alors que c'était un tempérament décidé, il avait le sens du leadership, il avait des projets apostoliques, mais chaque fois que l'Esprit lui donnait de sentir qu'il était appelé à ceci plutôt que cela, il se laissait travailler par l'Esprit. Et sa docilité a dû lui demander beaucoup d'abnégation, de renoncement à son vouloir propre, pour petit à petit se laisser ajuster au vouloir de Dieu. Alors la sainteté de Paul, le sensus fidelium, comme on dit, c'est-à-dire le sens des fidèles, le bon sens spirituel que les fidèles de l'Église ont, eh bien, ce bon sens l'a vite reconnu. Rapidement, dès le 1er siècle, on a honoré la mémoire de Paul au lieu où on avait enterré son corps, sur la route d'Ostie vers la mer, au bord du Tibre. Vers 330, au début du 4e siècle, l'empereur Constantin, vous en souvenez, se convertit au christianisme et il fait déjà ériger une chapelle à cet endroit en l'honneur de saint Paul. Et à la fin du siècle, cette chapelle est devenue une splendide basilique, la basilique de saint Paul hors les murs, en dehors de Rome. Pierre est honoré au Vatican et Paul est honoré davantage, sa tombe à saint Paul hors les murs. Alors ils sont fêtés ensemble, Pierre et Paul, le 29 juin, comme apôtres. Il y a aussi le 18 novembre, ce qu'on appelle la fête de la dédicace de leurs basiliques respectives. Donc ça fait déjà deux fêtes où il est question de Saint Paul. Et puis, il y a celle de ce jour, la conversion de Saint Paul. Donc dans le calendrier liturgique, Paul a droit à trois fêtes, deux conjointement avec Saint Pierre, et une qui lui est propre, celle de sa conversion. Comme pour Saint Pierre, il y a la fête qui est propre à Saint Pierre, de la chèvre de Saint Pierre, comme on dit. C'est dire que dans la reconnaissance, même liturgique et priante, du peuple chrétien, la conversion de Paul occupe une grande place. C'est un événement éminemment personnel dans sa vie et en même temps qui a un retentissement ecclésial décisif. Alors, dans les années qui suivirent le martyre de Paul, ce que disent des apôtres, les écrits chrétiens, la manière dont on cite déjà ces lettres, laisse voir qu'il y a eu une reconnaissance précoce de la valeur théologique et spirituelle et de la figure de sainteté de Paul. Du reste, dans les représentations picturales et autres, Paul occupe une bonne place, et dans les mosaïques chrétiennes antiques, déjà, il apparaît que les représentations de Paul, conjointement avec Pierre souvent, attestent cette estime pour le rayonnement de sa personnalité, de son œuvre, de sa sainteté. L'Église a reçu et continue de recevoir Paul comme un témoin privilégié du Christ. Voilà pour ce qu'il en est de souligner. Je souhaitais commencer par là la grâce de sainteté que Paul représente pour l'Église. Alors, je contemple quelques instants la représentation que je vous ai montrée et que vous avez sous les yeux. Cette belle peinture de Rembrandt qui est dans un musée à Stuttgart. Rembrandt a fait plusieurs portraits de Paul, quelquefois en autoportrait, mais ici ce n'est pas le cas, il a choisi un Paul en prison, et déjà marqué par l'âge. Je note quelques traits de cette belle image. Les pieds du missionnaire, vous voyez que son pied là, droit hors de la sandale, est mis comme en évidence, presque prêt à sortir du tableau. Ça peut être une évocation, qu'ils sont beaux les pieds du porteur de bonnes nouvelles, en Isaïe. Et d'ailleurs, Paul lui dira lui-même dans la lettre aux Éphésiens, « Ayez pour chaussure aux pieds la promptitude à annoncer l'évangile de la paix. » Rembrandt connaissait bien les Écritures et il parsème ses tableaux d'allusion ainsi. Puis il y a le regard, évidemment. Un regard si vif, encore, comme jeune du mystère qu'il a entrevu, un visage qui à la fois est vision, réflexion, méditation, un regard absorbé, contemplatif, et un peu perplexe à la fois, comme si Paul était en train de se demander « Mais qu'il est grand ce mystère de la foi, mais comment vais-je ici l'exprimer ?» Puisqu'il a une feuille sur le livre qu'il a sous la main et un stylet, il est prêt à écrire, il cherche les mots justes pour rendre compte de ce qu'il sent, de ce qu'il perçoit, de ce qu'il comprend. Alors il y a précisément sous sa main un gros livre, des Écritures, mais il y a un autre entre lui et l'épée là, et puis encore, au-delà de l'épée, un troisième livre. Ça peut évoquer pour Paul la grande connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament, qu'on divise volontiers dans le judaïsme en trois grandes parties. La Torah, et c'est le premier livre de la Bible, et puis les prophètes, qui incluent ce que nous appelons certains livres historiques, mais aussi les prophètes à proprement parler, et puis la troisième catégorie, les autres écrits. Et donc les trois livres font peut-être allusion à cette division tripartite de la Bible hébraïque que Paul connaît bien et qu'il estime. C'est à Timothée qu'il dira, alors qu'il est en prison précisément, la deuxième à Timothée, c'est une lettre de captivité qu'il écrira. « Depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes lettres, Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, reprendre, redresser, éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Donc, Paul a une grande estime pour les écritures, les utilise volontiers, et il ne se doute peut-être pas encore à ce moment-là que ses propres écrits, un jour, vont faire partie du corpus des écritures entrées dans le Nouveau Testament. Et puis il y a l'épée, qui peut, c'est pas une arme défensive, il est en prison, elle joue ici comme le symbole aussi du tranchant de la parole de Dieu, comme il dit. En Éphésiens, de nouveau, chapitre 6, le glaive de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je crois que Rembrandt avait en tête ce passage d'Éphésiens, et dont il a utilisé deux, trois symboles ici, dans cette belle représentation de l'apôtre. Alors, il y a comme un angle de lumière qui descend sur Paul. Vous savez, dans les représentations d'évangélistes, comme par exemple Caravage, qui représente Saint Matthieu, il y a comme un ange qui délicatement vient guider la main de l'évangéliste et figure l'inspiration ici, l'inspiration est figurée autrement. C'est simplement ce rayon de lumière qui auréole là, comme d'en haut, comme venu d'en haut, qui auréole l'apôtre et qui dit que lumineusement l'inspiration de Dieu lui vient et conjure l'ombre du cachot environnant. Voilà pour ce qui est de contempler un peu cette belle représentation. Venons-en à la vie de Paul, repère dans sa vie. La problématique de la chronologie paulinienne elle est la suivante, c'est que les sources sont bien sûr les lettres de saint Paul, où on trouve des points de repère, les actes des apôtres, qui font une grande place à saint Paul. La difficulté, c'est que il y a concordance sur pas mal de points essentiels, mais il y a parfois aussi des différences d'approche ou bien des doutes. Les actes relatent par exemple beaucoup, plusieurs montées de Paul à Jérusalem. Et par rapport à une montée qui évoque par exemple la lettre aux Galates, on a parfois un peu de difficulté à être assuré qu'il s'agit de telle montée plutôt que de telle autre dans la lettre aux Galates. C'est un exemple de cette difficulté à conjoindre la chronologie des actes et des lettres de saint Paul. Mais pour l'essentiel, quand même, on peut en tirer des points de repère assez solides. L'enjeu d'une datation, c'est que, par exemple, si on date une lettre de telle époque, ça veut dire aussi qu'on la situe dans tel contexte, et donc écrite à tel moment de sa vie plutôt qu'à tel autre. C'est important parfois à savoir, ou bien telle lettre est-elle antérieure à telle autre. Auquel cas, ces thèmes pourraient préparer une lettre ultérieure, etc. Donc, conjoindre la réflexion sur les datations, les propositions de datation de telle étape de sa vie, de tel voyage, avec les propositions de datation de ses écrits. Je n'en dis pas plus, je n'entre pas ici dans la technicité. Alors avant, ceci étant dit sur les sources d'information, la chronologie paulinienne et la prudence avec laquelle on les manie, sa jeunesse et son milieu d'origine. Qui est Paul? C'est la première question que nous nous posons. Il vit d'un triple enracinement. Il est de race et de religion juive. Il naquit juif et fut élevé dans la foi de ses pères. Et pas un juif tiède. Il nous apprend à un moment donné qu'il est pharisien, fils de pharisien. Donc, il a été profondément ancré dans son judaïsme. Il revendiquera par ailleurs à un moment donné sa citoyenneté politique romaine. Et il était citoyen romain de naissance, apprend-on dans les actes. Ce dont celui qui l'interpelle, cet homme. Comment, toi, tu as ce droit de naissance? Ça veut dire que son père était déjà citoyen romain, alors que celui qui interpelle Paul dit, moi, ce droit, j'ai dû l'acquérir. Mais lui, Paul, était citoyen romain de naissance. Et puis, son appartenance culturelle au monde hellénistique. À l'époque, la culture grecque hellénistique était répandue dans tout le bassin méditerranéen, et nous verrons que à Tarse, son lieu de naissance, Paul a déjà été en contact avec cette culture hellénistique, et, notamment littéraire, universitaire, et qu'il en a tiré profit dans ses écrits. Ceci dit, je reprends les choses un peu plus en détail. À Damas, son chemin va basculer, mais il est important de savoir ce dont il avait déjà été nourri auparavant. C'est un juif citoyen de Tarse et sa judaïté, son judaïsme, nous est rappelé par son double appellatif, Saoul ou Paul. Dans les Actes des Apôtres, jusqu'au chapitre 12 inclus, on l'appelle par son nom juif. Et la voix qui vient du ciel, dans des récits ultérieurs, Paul la rappellera comme l'interpellant par son nom, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? Et puis, à partir du chapitre 13, au moment où il est davantage en contact avec le monde romain, on va trouver l'appellatif Paulos. Saoul, c'est quand même le roi, le premier roi d'Israël. Ses parents n'y avaient pas donné n'importe quel prénom. Et ce roi d'Israël, Saül, était de la tribu de Benjamin. Et Paul rappelle qu'il est de la tribu de Benjamin. Son nom sémitique lui importe donc. Son nom romain, Paulos, va permettre que dans ses écrits, il soit davantage connu aussi sous ce nom, notamment pour des lecteurs qui ne seraient pas venus du judaïsme. Quand est-ce qu'il naquit ? Sans doute vers l'an 7 à peu près, ou très probablement à Tarse. Certains pensent qu'il est peut-être né en Palestine, ses parents étaient peut-être à ce moment-là, mais en tout cas, si c'est le cas, il est arrivé à Tarse très très jeune. C'est une ville d'Asie mineure qui est, si vous voyez les cartes aussi que je vous ai données, on en verra, mais 700 km quand même au nord de la Palestine, là, dans le coin de la Méditerranée. Elle comptait à l'époque peut-être 300 000 habitants, donc elle était bien plus peuplée que la ville sainte, que Jérusalem, c'était une ville importante. Elle était là au coin de la Méditerranée avec un port fluvial qui lui donnait accès à la mer, et aussi bien placée du point de vue des communications terrestres. Ce qui veut dire que c'était une ville qui profitait de ses passages, une ville vivace, prospère, et au point de vue activité économique, notamment, on tissait des toiles, d'où l'expression un cilice. C'est un vêtement qui sert parfois à faire pénitence dans le régime monastique, qui est une rude de toile d'étoffe qui servait aussi, parce qu'elle est bien solide, à faire des tentes. Et vous vous souvenez que Paul évoque le fait qu'il a travaillé de ses mains pour subvenir à ses besoins en tissant de l'étoffe dans cette région appelée à ce titre la Cilicie. Donc Tarse, ville de Cilicie, prospère entre autres par son activité de tissage d'étoffe. Mais pas seulement. Tarse avait aussi une belle réputation de ville universitaire, intellectuellement réputée, avec des écoles, notamment philosophiques, de haut niveau. Il n'est pas dit que Paul a fréquenté directement des écoles philosophiques dans sa ville natale, mais en tout cas, il a bénéficié de cet environnement et on voit qu'il est très bien au fait, on aura l'occasion d'identifier cela dans la lecture de lettres, de procédés rhétoriques développés dans la culture gréco-latine. Il a reçu cela en héritage de cette ville. Cependant, dans sa jeunesse, c'est surtout dans son entourage juif plus immédiat qu'il a reçu sa formation religieuse. Parce que dans chaque ville importante de la diaspora, comme on dit, c'est-à-dire des communautés juives dispersées dans le bassin méditerranéen, et à l'époque il y avait déjà davantage de juifs dispersés dans ces villes que sur le territoire de la Terre Sainte elle-même, eh bien, dans une ville comme Tarse, il y avait aussi une communauté juive de diaspora importante. Il y avait une synagogue, et donc ce n'est pas simplement dans sa famille, le premier lieu de l'éducation religieuse, qu'il a reçu l'héritage de sa foi en Dieu et de sa culture biblique, c'est aussi à la synagogue, qui était un foyer de vie religieuse aussi, sociale pour les juifs, et les juifs, en diaspora vivaient, bénéficiaient d'une assez large autonomie qui leur était accordée. La situation était moins tendue, finalement, dans ces villes, vis-à-vis de l'autorité romaine, qu'en Palestine elle-même. Ils avaient un certain nombre de privilèges. Ils étaient exempts de service militaire, parce qu'on ne peut pas combattre le jour du sabbat. Ils étaient dispensés des cultes impériaux. On respectait leur religion. Ils pouvaient suivre la loi de Moïse. Ils étaient dispensés de certains impôts, mais ils avaient le droit de payer le 10 drachmes pour le temple, la monnaie spécifique à leur religion pour honorer le service, soutenir le service du temple. Donc ils n'étaient pas trop victimes d'isolement, d'ostracisme, mais évidemment ces privilèges leur attiraient quand même parfois quelques jalousies. Mais globalement, comme je le disais, les communautés juives étaient assez épanouies dans ces villes du bassin méditerranéen, avant l'époque plus tardive des persécutions. Depuis le IIIe siècle avant notre ère, il y avait aussi, à l'intérieur du judaïsme, un fort mouvement de prosélytisme, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de faire connaître la foi de leur père et de voir s'attirer des prosélytes qui adhéraient non seulement comme les craignants Dieu globalement à la foi d'Israël, à la foi au Dieu unique, mais qui parfois acceptaient jusqu'à se faire circoncire, entrer plus radicalement dans le partage de la judaïté, si vous voulez. Et donc les Juifs de Tarse avaient leur identité propre, mais étaient déjà ouverts à d'autres identités culturelles, religieuses, dans cette grande ville variée socialement religieuse. Enfin, Paul devait être de condition relativement aisée par sa citoyenneté romaine. Et globalement, par rapport à l'autorité romaine, il ira plutôt dans le sens d'une loyauté vis-à-vis de ce qu'on appelait la Pax Romana, c'est-à-dire la paix que, dans les meilleurs moments, l'administration romaine favorisait quand même. Et Paul savait bien que tous les moyens de communication, les voies romaines, etc., on le devait quand même à cette organisation du monde romain. Voilà autant d'ouvertures sur le monde du côté romain, du côté de la culture grecque, mais qui préparait Paul à sa mission future. Dieu n'a pas choisi Paul par hasard, quand même un juif bien enraciné à son judaïsme, mais déjà avec des ouvertures possibles sur le monde non-juif. Sa formation dans le judaïsme, elle avait été enracinée dans la prière, d'abord la prière en famille. Les Juifs récitent spécialement le Shema Israël, qui dit la foi au Dieu unique, et son passage au christianisme ne va bien sûr pas être l'abandon de sa foi monothéiste. Il le redira à Timothée, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais bien sûr, Jésus est désormais le médiateur, fils de Dieu, il ne fait pas nombre avec Dieu, donc la foi monothéiste n'est pas ébranlé, mais il y a comme un dialogue dans ce Dieu unique, mais qui n'est pas en monobloc, il y a diverses personnes. C'est ce que Paul apprend en adhérant au christianisme, apprend à reconnaître et à formuler déjà, il y a le Père, le Fils, l'Esprit. Donc la prière est importante, qu'il continue, après son passage au christianisme, à honorer et plus que jamais sa foi monothéiste. Il est nourri aussi par sa fréquentation d'Écriture sainte et à la synagogue, où en dehors aussi, il avait l'occasion de la connaître, de la fréquenter dans cette cité du monde hellénistique, dans sa version en grec déjà, ce qu'on appelle la Septante, qui est la grande traduction de l'Ancien Testament en grec, et cela progressivement dès l'an 250 avant le Christ. Donc, à l'époque, on disposait déjà d'une traduction complète de l'Ancien Testament en grec, et la version grecque offre encore des amplifications par rapport à la Bible hébraïque, et même certains livres, le livre le plus tardif, le plus proche de nous, le livre de la Sagesse, a été écrit directement en grec. Et Paul le connaissait manifestement. On voit qu'il utilise des passages, il s'en inspire à certains endroits. Donc, enraciné dans l'écriture, non seulement dans sa version hébraïque, mais déjà, il connaissait bien la version grecque, qui va lui permettre, bien sûr, d'écrire lui-même ses lettres dans cette langue et d'être compris, justement, au-delà du monde, du seul monde juif. Dans ce monde juif, il était pharisien, fils de pharisien, comme je le rappelle, un mouvement laïque pieux, à différencier du mouvement sadducéen, qui sont les prêtres, les grandes familles sacerdotales, et alors que les sadducéens se réfèrent à la Bible seulement, si je puis dire, dans sa première partie, le Pentateuque, la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, la loi, comme on dit parfois, la loi de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est ce à quoi se réfèrent les sadducéens, et à la loi écrite, les pharisiens, eux, prennent aussi en compte les livres, les autres livres, les livres prophétiques, et développent une tradition orale. Parce que le rôle des prophètes, finalement, c'est souvent de rappeler la loi, mais de l'actualiser en fonction des circonstances nouvelles. Et Paul, comme pharisien, participe déjà de cette tradition qui réinterprète en s'efforçant d'actualiser. Et cela, non seulement dans les discussions entre rabbins ou entre les juifs, mais dans la vie quotidienne. Paul était pharisien, fils de pharisien. On voit que Jésus et Paul, plus tard, pourront faire des reproches à certains pharisiens, d'étroitesse, de durcissement, d'orgueil, que sais-je. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un mouvement important qui comptait dans ses confréries en Palestine, peut-être au moins 6000 membres des confréries pharisiennes, et qui étaient influentes et qui avaient une réelle ferveur et zèle religieux. Alors, quand les Romains ont détruit le temple en l'an 70 après Jésus-Christ, évidemment, le temple étant le lieu du culte, le rôle des prêtres et des familles sacerdotales, des sadducéens, a péri. Et ceux qui ont pris le relais du judaïsme à ce moment-là, ce sont les pharisiens. Le mouvement pharisien a survécu à la débâcle de l'an 70, tandis que les sadducéens, pas. Alors, parmi les pharisiens, il y a des scribes. La catégorie des scribes rejoint en bonne partie celle des pharisiens. Il y a des scribes qui ne sont pas nécessairement pharisiens, il y a des pharisiens qui ne sont pas nécessairement scribes, mais il y a dans l'ensemble un certain recoupement. La plupart des scribes étaient en tout cas d'obédience pharisienne. Et pour parfaire sa formation de pharisien, Paul a été à l'école d'un pharisien nommé Gamaliel. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais c'est ici, dans cette ville, Jérusalem, c'est ainsi que Paul parle en acte 22, c'est dans cette ville que j'ai été élevé, que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation stricte à la loi de nos pères. Autrement dit, Paul, né à Tarse, a déjà eu dans sa jeunesse un temps de formation approfondie à Jérusalem, en bénéficiant d'enseignements de Gamaliel. Alors Gamaliel se rattache à son aïeul, Hillel. Il y avait deux grandes figures du judaïsme pharisien, Shammai, assez rigoriste, et Hillel, plus souple, plus ouvert. Et par Gamaliel, Paul se rattache à cette tendance. Il a eu la chance d'étudier auprès d'un maître, Gamaliel, déjà davantage prédisposé à faire preuve d'ouverture, de pédagogie vis-à-vis de ceux qui, du dehors, voulaient adhérer à la foi juive et à la loi. Voilà pour ce qui est un peu de sa formation dans le judaïsme. Au départ, Paul est un pharisien zélé et persécuteur. J'ai dit un mot de ce mouvement pharisien. Pourquoi ? Il pressent qu'un certain nombre de nouveaux croyants, parmi lesquels Étienne, à la lapidation de laquelle il va assister, sont des juifs hellénistes, c'est-à-dire qui avaient comme lui baigné dans un climat également de culture grecque, et qui sont devenus chrétiens. Et ces juifs hellénistes, devenus chrétiens, sont moins prompts que les juifs uniquement rattachés à la langue hébraïque, sont moins prompts à magnifier la loi et le temple. Et on les considère, à partir du moment où ils deviennent chrétiens, comme étant des transgresseurs par rapport à, au culte du temple ou à la loi de Moïse. Et c'est une des raisons pour lesquelles Paul va persécuter ces nouveaux chrétiens venus du judaïsme hellénistique, en estimant, alors même que je l'ai dit, qu'il avait quand même des atouts pour être ouvert, mais sur ce point-là, de l'attachement à la loi et au temple, Paul est vraiment d'un zèle jaloux, comme il dit, pour le Dieu de ses pères, et c'est ce qui explique qu'il va persécuter cette fraction de chrétiens. Il est là, on peut le rappeler, assistant à la lapidation d'Étienne, et ce qui se passe là va faire son chemin dans son cœur jusqu'au jour aussi, bien sûr, de son chemin de Damas. Il acquiesce à la lapidation d'Étienne parce que ce Jésus que Étienne proclame, en disant « Je vois les cieux entre Père et le Fils de l'homme à la droite de Dieu », dans son beau témoignage rapporté en acte, eh bien ce Jésus, il avait quand même été condamné par le Sanhédrin, les plus hautes instances de son peuple, l'instance spirituelle suprême du judaïsme. Et puis, ce que Paul devait sentir confusément dans le génie intellectuel et spirituel qui était le sien, c'est que si on touchait à la loi, dans une certaine perspective d'observance rigoureuse et parfois un peu pointilliste, si on touchait à la loi, c'était tout le système du judaïsme qui était quand même fortement appelé à se revisiter, à être revu, qui risquait de basculer. Paul était fier de son zèle dans la loi de ses pères, la foi de ses pères. Et donc, si l'on relativisait la loi en disant « Mais ce qui nous sauve, avant même l'observance de la loi, c'est la miséricorde qui nous vient en Jésus, en proclamant Jésus », il devait intuitionner que adhérer à Jésus, c'était vraiment mettre en péril le cœur, à ses yeux à ce moment-là, de son identité juive. Et ce qui explique qu'il poursuit ces chrétiens, il les poursuit sur le chemin qui mène vers Damas, parce que, précisément, ces juifs hellénistiques, indésirables à Jérusalem, chassés de Jérusalem, fuient vers le nord, vers la Syrie, vers Damas. Et dans son zèle, il se dit même dans les actes, mandaté explicitement par les grands prêtres pour mener ses persécutions jusqu'auprès de ces chrétiens là qui montent vers le nord dans la région de Damas. Il se sent officiellement investi d'une mission d'éradication de ce qui lui apparaît comme de l'ivraie. Et son chemin de Damas, nous pouvons en prendre un instant, si vous voulez, le récit dans la page que je vous ai donnée de ces diverses versions. Et puis, on verra les conséquences de l'événement pour Paul. Vous prenez votre page 3, que je vous ai envoyée en PDF, que vous avez ici sous les yeux. L'événement de Damas est relaté par trois fois, c'est-à-dire son importance dans les actes. Au chapitre 9, c'est le narrateur des actes, Saint Luc vraisemblablement, qui rapporte l'événement en troisième personne. Au chapitre 22 et au chapitre 26, c'est Paul lui-même qui s'exprime à propos de cet événement. Au chapitre 22, devant les autorités juives qui l'interpellent à Jérusalem, puis au chapitre 26, devant les autorités romaines qui l'interpelle à Césarée maritime sur le bord de la côte où il a été transféré pour échapper à la vindicte des Juifs de Jérusalem à ce moment. En acte 9 et en acte 22, les deux récits sont, vous voyez, sensiblement proches et pratiquement identiques. La parole « Dresse-toi, entre dans la ville et on te dira ce qu'il te faut faire » apparaît un petit peu plus loin dans la séquence, en acte 22, lorsqu'il dit « Que faire, Seigneur ?» et le Seigneur me dit « T'es dressé, fais route vers Damas et là, on te parlera de tout ce qu'il t'est prescrit de faire » au moment où la voix se fait entendre à Paul. Alors il y a une différence, vous voyez. En acte 9, il est dit, ses compagnons de voyage, vers le milieu de la colonne, ses compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets, ils entendaient certes la voix, mais ne voyaient personne. Et en acte 22, c'est un peu différent. Ceux qui étaient avec moi, dit Paul, considérèrent la lumière, donc ils voyaient une clarté, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors on a analysé ces différences, on s'est interrogé, et un bon exégète concluait, finalement, c'est une manière d'exprimer, même si d'un côté il est dit ils entendent mais ne voient pas, et de l'autre côté l'inverse, c'est une manière d'exprimer que ceux qui entourent Paul ne peuvent pas participer comme lui à la singularité de son expérience. Ils voient ou ils entendent que quelque chose se passe, mais c'est Paul seul qui voit à la vision de la clarté, la lumière, et qui entend les paroles que le Seigneur lui adresse. Cela pour cette petite différence. Mais alors, la fin se termine sur la note de son aveuglement. En acte 9, il demeura privé de vue pendant 3 jours sans rien manger ni boire. Et en acte 22, il dit, comme je ne fixais plus le regard, je ne voyais plus à cause de la gloire de cette lumière-là. Il lui dit, ce qui m'a aveuglé, c'est le rayonnement de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrivais à Damas. Vous imaginez, Paul, si fier de lui, décidé à aller emprisonner les chrétiens, etc., terrassé, et au point de devoir entrer dans Damas, conduit par la main comme un petit enfant. Quand même, quel dépouillement, quel retournement. Alors j'ai insisté sur l'élément de l'aveuglement, parce qu'il va être ressaisi alors, dans toute sa force symbolique aussi. Il lui signifie cet aveuglement physique, pendant 3 jours, lui signifie l'aveuglement spirituel qui était le sien, et dont le Seigneur va le guérir. Et ça s'est déployé dans le troisième récit, en acte 26. Vous voyez, j'ai souligné quelques expressions qui manifestent que le récit, vous voyez, est plus détaillé, plus fourni. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, la voix ajoute, il t'est dur de ruer contre des aiguillons. Paul est un tempérament à ruer dans les brancards. Moi je dis, qui es-tu, Seigneur? Seigneur, il a compris quand même que ce n'est pas une voix n'importe laquelle, une voix divine. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus, que toi tu persécutes, comme là il y a unanimité des trois relations. Reste-toi, tiens-toi sur tes pieds. Mais alors il y a ce développement qui est très beau. Car voici pourquoi je fus vu de toi, pour te prendre en main comme homme de service et témoin de ce que tu as vu et des choses que tu verras encore. Paul a eu, il évoque très pudiquement, mais peut-être d'autres visions après. Mais celle-ci est fondatrice. En te retranchant du peuple et des nations vers lesquelles moi je t'envoie. Le peuple, ça sera la mission auprès d'Israël. Les nations, ce profil, sa vocation d'apôtre des nations. Pourquoi? Pour ouvrir leurs yeux. C'est Isaïe. Pour les retourner de la ténèbre vers la lumière. Mais c'est ce qui se passe, qu'il éprouve corporellement, il est aveugle. Pour les retourner de la ténèbre vers la lumière et de l'autorité de Satan sur Dieu, pour que, par la foi en moi, eux reçoivent rémission des péchés et un lot parmi les sanctifiés. Donc, il est signifié que le retournement, la conversion qui commence à s'opérer en lui, le passage des ténèbres à la lumière, il va être amené à le prêcher pour Israël, à le prêcher aux nations, et à prêcher que c'est par la foi, et pas par la justice de la loi, c'est par la foi qu'ils vont être sauvés, la foi en Jésus. Et puis je vous ai mis quelques éléments de la suite du récit, puisqu'il est en présence, il est en train de faire son speech au roi Agrippa, qui l'écoute. Des éléments encore que je vais souligner qui marquent comment l'envoi de Paul se profile, ainsi qu'à Jérusalem j'ai prêché, et dans tout le pays de Judée et aux nations. Je rapportais, Paul rappelle à Agrippa ce qu'il a déjà fait dans ses voyages apostoliques, puisque à ce moment-là il est interpellé au terme de son troisième voyage, surtout de son troisième voyage. Il a déjà été vers la Judée, les nations, dit-il à Agrippa. Et Jusqu'à ce jour, je rends témoignage, aux petits comme aux grands, ne disant rien d'autre que les prophètes et la loi de Moïse, disant ce qui est arrivé, que le Christ, suite à la souffrance, est le premier d'une résurrection des morts. Le cœur du kérygme, ce que j'ai annoncé au peuple et aux nations, c'est cela. Le Christ, par sa souffrance, est aussi le premier de la résurrection des morts. Il allait annoncer une lumière pour le peuple ainsi que pour les nations. Ce thème de la lumière, cher Isaïe, est repris ici. Ceci pour manifester la richesse de ces relations du chemin de Damas, de Paul, tel que relaté dans les Actes. Alors, quelles sont les intuitions fondatrices que Paul en reçoit ce jour-là et qui vont germer, mûrir et se déployer alors dans toute sa théologie? D'abord, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire que persécuter les chrétiens, c'est persécuter le Christ. Persécuter les membres du corps, c'est persécuter le corps, la tête tout entière. Le lien entre le Christ, tête du corps ecclésial, et les membres de son corps, par le biais de la persécution qu'il poursuivait, lui est signifié. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est pas simplement les chrétiens qui persécutent, c'est moi que tu persécutes. Ça, c'est une première intuition fondamentale. Puis, Paul n'a pas connu Jésus de son vivant terrestre à la manière des apôtres. Il l'a rencontré sur son chemin de Damas d'emblée comme le ressuscité. Rencontrer Jésus comme à jamais vivant, c'est à la fois comprendre que celui qu'il considérait comme simplement un infâme périt sur un gibet est ressuscité dans la puissance de Dieu, puisqu'il lui apparaît, et qu'il daigne se manifester à lui qui précisément le persécutait, c'est quand même une fameuse preuve de miséricorde. Il lui fait comprendre qu'en s'adressant à lui et en daignant d'emblée lui dire « Tu seras mon témoin privilégié auprès du peuple et des nations », c'est quand même lui signifier fameusement qu'il lui a pardonné et que ce pardon va être la source de toute sa fécondité apostolique. Il est pleinement gracié. Il est pleinement, comme il le dira plus tard, justifié. Non pas que Dieu lui donne raison d'avoir persécuté, mais justifié, chez saint Paul, ça veut dire que la miséricorde de Dieu nous réajuste à lui, nous réintroduit dans sa justice, au-delà de nos faiblesses. Et comme il est dit que Paul se laisse conduire par la main à Damas, et puis c'est Anani qui va l'introduire dans l'Église, Paul commence à entrer dans un corps et une tradition ecclésiale. Il va humblement être baptisé par Anani. Et d'emblée aussi, dans sa vocation, vous avez entendu le récit, lui est signifié que le moment de sa conversion est déjà le moment de sa vocation et de la perspective de sa mission aux Juifs et aux païens. Il y a un peu tout cela en germe dans cet événement de Damas. L'expérience du corps ecclésial, l'expérience de la vie du Christ ressuscité qui l'emporte sur toute mort, y compris celle du péché, et qui lui fait présentement miséricorde pour l'introduire dans la tradition ecclésiale. Voilà pour ce qui est de détailler un peu plus ce mouvement décisif de Damas. Alors après l'événement de Damas, donc je viens d'esquisser en quelques mots, si vous voulez, ce que j'appelle au bas de votre feuille de route 1, les conséquences pour son intuition théologique et spirituelle. Je passe à la feuille de route 2, encore pour quelques minutes, le temps qui nous reste, et nous poursuivrons la fois prochaine. Après Damas, Paul se met en route, et retourné par la grâce de Dieu, il est pris tout de suite d'un saint zèle. Mais, comme souvent, c'était le cas par exemple pour saint Ignace, entre le moment de l'impulsion initiale, du moment de la conversion, et l'aptitude à être envoyé en mission, il faut quand même un certain temps d'assimilation de la grâce reçue, de purification. On peut avoir un enthousiasme premier, plein de feu, plein de zèle, mais encore assez peu éclairé. Et c'est ce qui va se passer pour Paul. Une longue période de latence va s'écouler avant celle des grands périples missionnaires, 5 ans au moins, peut-être plus. Le chemin de Damas a lieu en 37, et c'est sans doute pas, on discutera ces dates, mais sans doute pas avant 43-44 qu'il entreprend ses premiers voyages missionnaires. Alors dans l'enthousiasme de sa conversion, il intervient d'abord dans les synagogues de Damas. Et puis, il y a un certain séjour, dont on ne parle pas les actes, mais auquel il fait allusion dans la lettre aux Galates, en Arabie. Il faut entendre l'Arabie, à ce moment-là, la région de l'au-delà du Jourdain. Ce n'est pas l'Arabie saoudite. C'est l'Arabie, c'était une des manières de qualifier ces régions de Transjordanie, de l'au-delà du Jourdain, là où se trouve le site nabatéen de Petra. Vous avez peut-être déjà vu dans les merveilles archéologiques de notre monde, il y a le site de Petra avec des habitations taillées dans la roche, etc. Il y avait un royaume florissant, nabatéen, et il y avait de l'autre côté du Jourdain, dans cette région, déjà des communautés juives importantes. Et il n'est pas exclu que de Damas, Paul soit passé de l'autre côté, dans ce qu'il appelle l'Arabie, en Galate, au pays des Nabatéens, où sa prédication a été relativement peu accueillie, et il s'est fait quelques ennemis, à tel point que le roi Nabatéen, Arétas, ira le poursuivre jusque dans Damas. Donc, on ne peut pas dire que ce soit le grand succès pour une première mission apostolique. Zélé, mais assez éprouvé, parce que le Seigneur va lui faire comprendre qu'il ne suffit pas de l'enthousiasme, et il doit encore le purifier pour l'ajuster à sa mission. Et c'est Barnabé qui, alors, va avoir l'intuition, quand même, de la richesse de personnalité de Paul et de ce qui va découler de sa conversion, et qui va aller le chercher alors, là à Damas, où il ne veut plus trop se manifester en public, il va le chercher pour l'amener à Antioche. À Antioche, un peu plus bas que Tarse, un peu plus haut que Damas, Antioche, non pas de Pisidie, au cœur de la Turquie actuelle, mais Antioche de Syrie, précisément, qui était à l'époque la troisième ville de l'Empire, après Rome et Alexandrie. Une ville carrefour, et Paul et Barnabé perçoivent bien l'importance stratégique de cette ville d'Antioche, et ça va être la base de départ pour leurs nombreux voyages apostoliques. Mais Barnabé l'entraîne d'abord dans la ville d'Antioche même, et c'est là que les tenants de la voie, comme les appelait, vont recevoir le nom de chrétiens, pendant cette période où Barnabé et Paul prêche à Antioche et s'émerveille de constater que des non-juifs peuvent eux aussi adhérer à la foi en Christ et en être sauvés. Alors Barnabé va aider Paul à s'incorporer. Paul n'est pas monté d'emblée à Jérusalem. À un moment donné, il s'est décidé quand même à aller voir les colonnes de l'Église, parce qu'à Jérusalem, on avait gardé de lui quand même le souvenir d'un fameux persécuteur des chrétiens, donc les chrétiens de Jérusalem n'étaient pas trop pressés de le revoir. Mais alors Barnabé va l'aider à monter à Jérusalem, à rencontrer les apôtres et l'appuyer de son crédit auprès des chrétiens de Jérusalem qui hésitaient à accueillir Paul, se méfier quand même un petit peu de ce nouveau converti, en disant est-ce qu'il est vraiment converti. Et ils vont éprouver grâce à l'appui de Barnabé, que c'est vraiment lui. Alors, après ce temps, à Antioche, Paul va se mettre en voyage, en route pour ses grands voyages missionnaires. Nous les détaillerons la fois prochaine. Je ne fais qu'évoquer un peu les conditions du voyage. Donc, ils vont se dérouler, ces voyages missionnaires, entre l'an 43-44 jusqu'à l'an 58. En 58, au terme du troisième voyage, à la Pentecôte 58, il va monter à Jérusalem et là il va être arrêté, transféré à Césarée Maritime, c'est là qu'il fait son discours à Agrippa, et de là transféré pour son voyage de captivité à Rome. Mais en attendant, donc de 43-44 jusqu'à 58, de grands périples missionnaires. J'ai mis dans le petit livre que vous pourrez acquérir si vous voulez, j'ai des exemplaires encore un prix défiant toute concurrence, 5 euros, j'ai mis qu'il avait parcouru, à la page 23, 4000 km. À l'époque, j'avais en tête de signifier le nombre de kilomètres par voie de terre, sans doute, mais en tout, il a dû parcourir plus de 10 000 km de voyage, par voie de terre, par voie de mer. Et les voyages, à l'époque, je termine sur cette note, n'étaient pas une sinécure. Il y avait certes des voies romaines, mais dès qu'on s'en écartait, on était dans des régions plus désertiques. Le climat de l'Anatolie, comme on l'appelle aujourd'hui, cette région centrale de la Turquie, que Paul a portionnée, est un climat continental. Des hivers, il fait vraiment froid, et des étés, il peut faire torride. Les conditions de voyage, ne parlons pas des conditions de voyage par mer, où on risquait toujours le naufrage, ça s'est avéré vrai pour Paul, qui a terminé par un naufrage aux abords de Malte, selon la fin des actes des apôtres, et puis toutes les préoccupations apostoliques qu'il portait, parce qu'on va le voir, ça a quand même été pas mal de tribulations, qui supposent une endurance physique, mentale et spirituelle peu commune. Et ça, nous le verrons la fois prochaine, sans nous y attarder trop, mais pour poser le cadre des voyages dans lequel Paul écrit, parce qu'il n'écrit pas comme un théologien en chambre, mais ses écrits sont toujours dans le cadre de ses missions apostoliques. Voilà pour cette première leçon, que nous poursuivrons la fois prochaine. Merci de votre attention.